Voilà, Romains, chapitre 12 et verset 1er. Pour commencer, Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous le lis sur la version Summer. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Amen. Et je me suis permis de prendre une autre traduction, c'est-à-dire parole vivante, et je vous le lis. Je vous demande donc, frères, j'ajouterai, et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces, et toutes vos facultés soient mises à votre disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là un culte conforme à ce que la raison vous demande. Amen. Je trouve vraiment ce texte super précis. Dont le titre de notre méditation ce soir sera un sacrifice vivant. Le dictionnaire nous dit qu'un sacrifice, c'est une offrande faite à Dieu. Ici, nos corps sont donc un renoncement volontaire. C'est donc la vie selon Dieu, sacrifice de soi, sainteté, consécration. Voilà le premier point donc d'introduction. Avant d'aller plus loin, il est bon de se rappeler que la psychologie, n'ayez pas peur, et l'anthropologie, c'est l'étude de l'espèce humaine, culture humaine, structure familiale, croyance. Donc ici, c'est croyance. Donc, au sens biblique, ne décrivent pas l'homme d'une manière simpliste. L'apôtre Paul emploie 7 termes différents pour caractériser donc l'être humain. 7, comme vous le savez, c'est également le chiffre de la perfection. Premièrement, l'âme, psyché. Deuxièmement, l'esprit, pneuma. Troisièmement, la chair, sarx. Quatrièmement, le corps, soma. Cinquièmement, le cœur, cardia, avec un K. Sixièmement, l'intelligence, nous. Ah oui, c'est comme ça. Et septièmement, la conscience sine deesis. Toutefois, à eux seuls, ces termes ne permettent pas d'établir un schéma simple à comprendre. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, l'homme, c'est-à-dire l'être humain, est surtout entrevu comme une nomade. C'est-à-dire, une monade, c'est un tout, c'est une substance dont tous les êtres sont composés, donc nous sommes composés, un tout. Toutefois, ce tout est déchiré par le dualisme, c'est-à-dire de la matière et de l'esprit, c'est-à-dire le corps et l'âme, la coexistence des deux, le dualisme corps et âme. Dans le Nouveau Testament, donc dans la Nouvelle Alliance, un seul passage, un unique passage, ajoute l'esprit au corps et à l'âme, en quelque sorte, je dirais, une trinité. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Qu'il garde, moi je le mis à raccourci, hein, qu'il garde donc votre être entier, c'est-à-dire que le Seigneur garde notre esprit, l'âme et le corps, soit tout notre être entier. En tout cas, de tous, mes amis, soulignons que le Seigneur voit la créature dans son intégralité et que le corps n'en est qu'une partie de la créature, si importante qu'elle soit. Le corps n'est pas, comme le disait Platon, comme le pensait Platon, la prison de l'âme. Alors Platon, vous êtes allé à l'école comme moi, j'ai relevé, philosophe grec, disciple de Socrate et maître d'Aristote, en 347 avant Jésus-Christ. Donc, nous revenons, ce n'est pas le corps, comme le pensait Platon, la prison de l'âme, il disait. Au contraire, aux yeux du Créateur, le corps a une valeur si grande que Dieu désire que nous lui offrions comme un sacrifice vivant. Est-ce une raison de penser, comme certains, que le corps mentionné donc dans Romains 12:1 représente tout l'être humain? Quoiqu'une bonne traduction moderne traduise par corps, par vie, beaucoup de théologiens n'y voient que notre être physique, c'est-à-dire à vous offrir, donc, comme nous l'avons vu, comme un sacrifice vivant, à lui consacrer donc votre être tout entier. Je dis bien tout entier. Qu'est-ce que l'expression « un sacrifice vivant » N'est-ce pas une contradiction en soi? Un sacrifice vivant avec un corps imparfait, parce que nous sommes imparfaits. Une anecdote. L'apôtre Paul, comment ose-t-il lancer un appel dont l'exigence, offrir son corps comme un sacrifice vivant? Un sacrifice vivant, mais pourquoi? Lorsqu'on vient de reconnaître Jésus-Christ, qu'on lui a donc cédé notre vie, l'offrande ardente de cette vie à Dieu semble, je dirais, un mouvement normal du cœur. L'amour répond souvent spontanément à l'amour vrai. Pourquoi donc cet appel, offrir notre vie en sacrifice? En Christ, nous recevons non seulement l'espérance de la vie éternelle, mais nous recevons aussi des positions de cœur différentes envers la vie présente. Il est peut-être parfois plus difficile de renouveler consciemment le don de notre vie lorsque d'importants changements bouleversent notre quotidien, lorsque notre santé est déficiente, que nous sentons nos forces diminuer, que nous luttons avec une frustration profonde ou que notre sécurité personnelle est menacée. Tout cela, au contraire, nous porte à revendiquer de pouvoir vivre pour nous-mêmes et à oublier, mes bien-aimés, à oublier la nécessité de l'offrande de notre vie en sacrifice à Dieu. Nous sommes d'accord? Amen. D'ailleurs, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance nous aide à comprendre le sens profond des sacrifices. L'Holocauste, comme vous le savez, par exemple, exprimait la consécration totale de la victime. Christ, d'ailleurs, le premier l'a vécu jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque sur la croix. Il a été dépouillé de tout. Il a été brisé, il a été anéanti, il a été humilié, il a été abaissé, il a été méprisé, il a été abandonné, il a été affligé, il a été maltraité, il a été écrasé par la souffrance. Mais bien aimé, par conséquent, le sacrifice impliquant une consécration totale. S'offrir comme un sacrifice signifie bien se livrer, je dis bien, se livrer sans réserve à Dieu, s'abandonner à Dieu sans réserve totalement. Le deuxième point, le corps est important. Le corps est l'instrument donc qui traduit nos pensées en actes. En bien ou en mal, notre corps physique révèle donc notre attitude intérieure. Ainsi, nos lèvres expriment nos pensées. Notre visage reflète notre haine ou notre amour. Nos pieds marchent ou ne marchent pas à la rencontre de l'autre pour lui demander pardon. Notre corps physique met en pratique les œuvres de notre foi qui seraient mortes sans elle. Selon Jacques, au chapitre 2 et au verset 18, selon ce que le Seigneur demande, la foi, dit-il, Donc, accompagnez les œuvres avec des actes qui le prouvent, la foi démontrée par ces actes. C'est bien précis, c'est net. Le corps humain est à tel point important pour Dieu que Dieu, bien qu'esprit, il s'est revêtu lui-même d'un corps. En Christ, il s'est incarné. En Christ, il a vécu. En Christ, il s'est laissé crucifier. Puis, il est ressuscité. Amen. Lors de son ministère terrestre, Jésus-Christ a opéré des guérisons sur le corps humain, des miracles. Il a ressuscité même des morts. Et lors de la résurrection des saints, il nous est dit, il leur donnera un corps nouveau. Amen. Alors là, nous aurons, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, un corps nouveau. Alors, je l'ai relevé sur Philippiens, vous ne l'aurez pas au tableau, chapitre 3, verset 21, Philippiens, chapitre 3, verset 21, sur parole vivante, je trouve plus précis. À son retour, vous l'attendez son retour, mais moi aussi, ça fait 60 ans, mais il va venir. Il transfigurera le corps misérable que nous possédons actuellement dans notre humble condition pour le transformer, c'est-à-dire le rendre conforme à son corps resplendissant de gloire. Je trouve ça merveilleux. C'est un passage glorieux. Notre corps, vous le savez donc, est le temple ou le sanctuaire, selon la traduction, du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. S'il est vrai, hélas, que le péché corrompt nos cœurs au moyen de notre corps, il est aussi écrit qu'il est sanctifié, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Romains, c'est 1 Thessaloniciens, voilà, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Que notre corps humain, si merveilleux d'une part, dans le psaume 139, que vous lirez chez vous, et faible d'autre part, dans le psaume 90, que vous lirez chez vous, ou 2 Corinthiens, au chapitre 4 ou au chapitre 5, soit le temple du Saint-Esprit, reste pour moi un glorieux mystère. Colossiens 1, 27 nous dit, vérité de la foi, inaccessible à la raison humaine. Et c'est vrai. Le Christ est en nous et il est parmi nous, que son nom soit glorifié. Afin que notre corps physique remplisse bien sa fonction de temple de Saint-Esprit ou du sanctuaire du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous enjoint à le traiter durement, à le tenir assujetti, à le tenir soumis, de peur, nous était dit, d'être désapprouvés par Dieu et par les hommes, après avoir prêché justement aux autres. C'est là donc le reniement de soi, mais aussi la maîtrise de soi. Il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, de peur de se trouver soi-même disqualifié, c'est-à-dire réprouvé, c'est-à-dire rejeté, après avoir apporté la parole aux autres. C'est une responsabilité, mes bien-aimés. Au jardin de Gethsémané, les disciples n'ont pas mis en pratique cette fonction. Ils ne se sont pas mis en action, eux qui s'étaient endormis, tandis que le Seigneur luttait dans la prière. C'est la faiblesse humaine, vous l'avez dans Matthieu, au chapitre 26. Bien-aimés, qu'en est-il de nous, de moi, lorsque les tentations nous assaillent? Et combien de tentations y a-t-il aujourd'hui dans ce monde? Il y a les excès de table, il y a la convoitise sexuelle, l'attrait du matérialisme, etc. Rappelons les paroles du Seigneur. Matthieu, chapitre 5, versets 29 et 30. Un passage qu'on connaît bien. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et ta main droite est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas en enfer, c'est-à-dire dans la gêne. Et parole ouverte, la version nous parle même dessein de rêve malfaisant. Bon, elle va plus loin, dessein de rêve malfaisant. Veillons, mes bien-aimés, à ne pas mourir spirituellement, à ne pas décliner spirituellement. Restons vigilants, soyons vigilants. Dieu veut que notre corps, que votre corps soit un instrument saint, un instrument docile, un instrument soumis, un instrument utile à son service. Nous voulons être utiles au service du Maître. Mais plein de compassion, mes bien-aimés, plein de compassion. C'est vrai que les générations d'aujourd'hui, par rapport aux générations anciennes, je parle un peu pour moi aussi, ont, à divers égards de ce fait, elles peinent peut-être moins à obéir aux injonctions du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il est plein de compassion et il veut nous aider. Malheureusement, par rapport à ma génération, le matérialisme, le libéralisme effréné, le confort, la science, tout cela s'est développé à une vitesse vertigineuse. Mais aussi, et malheureusement, les mœurs se sont relâchées et le rejet de la foi, malheureusement, s'est accru. On est d'accord? Le troisième point, application pratique. La notion de sacrifice exprime assurément la consécration totale, c'est-à-dire entière de la victime, un don de soi sans réserve, pouvant même aller jusqu'au dépouillement total, au brisement, à l'anéantissement. Toutefois, c'est important, ce principe sous-entend la sauvegarde du corps. Nous devons protéger quand même notre corps. Parce que le Seigneur, il veut que le corps, l'âme et l'esprit soient entièrement à sa disposition. Cela conduira inévitablement pour chacun de nous à devoir changer certaines habitudes, certaines manières. Le contexte de Romains 12:1 le laisse entendre. Il le répète sans arrêt. Ne vous conformez pas au siècle présent, aux habitudes de ce monde, mais soyez changés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Notre intelligence spirituelle, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Ce qui est bon, ce qui est agréable, parfait, et ce qui lui plaît. L'expression transformée est tirée du mot grec métamorphama, mot que la langue française connaît aussi. Alors, le dictionnaire Larousse le définit ainsi. Changement extraordinaire dans le caractère d'une personne. Changement complet dans l'état, le caractère donc d'une personne. Changer la nature de l'individu, j'aime bien maintenant, transformation importante du mode de vie d'une personne. Est-ce qu'il y a une transformation importante, mes bien-aimés, dans notre vie, dans vos vies et dans ma vie? D'ailleurs, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, je vous le prends sur parole vivante, « L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé, voici, tout est devenu nouveau. » Amen. Tout est-il devenu nouveau dans votre vie? C'est un changement radical. Mais Jamais cette transformation doit engendrer des suites concrètes, c'est sûr, concrètes dans notre comportement. Ce qui peut se faire que si nous offrons, bien entendu, notre corps comme un sacrifice vivant. Cette exhortation n'est pas réservée à une élite, mais elle concerne tout disciple du Seigneur. Et chacun d'entre nous, nous sommes des disciples du Seigneur Jésus. Il est dit, le Seigneur n'a-t-il pas dit que nous sommes ses disciples? Tout disciple accompli sera semblable à son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Luc chapitre 6, verset 40, pour ceux qui notent Luc chapitre 6, verset 40. Offrons aussi notre corps comme un sacrifice vivant dans la prière, et oui, dans la prière journalière. Je me souviens d'avoir lu sur une revue chrétienne un évangéliste du 19e siècle, Fils, s'exprimer ainsi dans la prière. Seigneur Jésus, pour aujourd'hui, prends mes lèvres pour qu'elles disent des choses agréables à Dieu. Prends possession de mes mains pour qu'elles agissent de la bonne façon. Prends mes yeux pour qu'ils ne se laissent pas tenter. Prends mes oreilles pour qu'elles n'écoutent que ce qui te plaît. C'est merveilleux. Amen. Offrons notre corps aussi pour l'évangélisation. Dieu aimerait voir nos pieds. Esaïe dit qu'ils sont beaux, les pieds sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. Et nous sommes des messagers de bonne nouvelle, nous dit le prophète Esaïe. Donne nos pieds chaussés pour le zèle, pour aller vers les non-chrétiens, nos lèvres, eh oui, pour sourire à notre prochain, pas y faire la tête, et lui parler de l'évangile, nos mains. Ah, Jésus disait, les mains de Jésus étaient au service de sa créature. Nos mains donc, comme le Seigneur Jésus, pour rendre service aux autres, à un voisin, aux créatures. Nos genoux, comme le Seigneur Jésus, pliés dans la prière. L'évangélisation est-elle difficile dans notre région, dans notre quartier, parmi nos familles, parmi nos amis, parmi nos relations, parmi notre voisinage? Commencez par prier en citant les noms de chacun. Priez et vous aurez la réponse à votre prière. Faites quelque chose, ne restez pas inactifs. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant pour l'évangélisation et il y aura des conversions. Amen. Offrons notre corps aussi comme un sacrifice vivant dans le domaine de la gestion de nos biens et de la libéralité, de la générosité. Dieu aimerait voir nos yeux, éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, psaume 13, verset 4. Nos yeux qui ne convoitent ni le superflu, ni encore moins le superluxe, mais qui se contentent du nécessaire, de l'essentiel, de ce qui est indispensable pour les besoins de la vie. Nos yeux et nos mains pour s'inquiéter de gérer les biens matériels que le Seigneur nous a confiés, jusqu'à les considérer comme aussi importants que les âmes dont nous avons la charge. Apprenons, mes bien-aimés, à voir et à nous préoccuper de ce qui est prioritaire aux yeux de Dieu. Ayant une vie, une existence enrichie par la main du Seigneur. Offrons aussi notre corps comme un sacrifice vivant, une offrande vivante dans notre mode de vie quotidien. Ça, c'est encore autre chose. Dieu aimerait voir notre corps disposé à se lever, si possible, un peu plus tôt le matin. Je parle surtout pour ceux qui travaillent là, pour le culte personnel. Nos yeux, là je peux parler pour moi aussi, par contre, qui ne s'attardent pas trop sur la télévision, sur Internet, à des heures inadaptées, mais plutôt qui sachent se fermer pour la prière. Sachons stopper la télévision au moment opportun. Je fais comme vous, je la regarde aussi. Je dis bien au moment opportun. Regarder la télévision ou Internet pendant des heures est une habitude bien ancrée et voire une servitude chez le Français. Un sondage disait que les enfants passent 5 à 7 heures par jour sur des jeux vidéo. Ça paraît impensable. Consacrer donc en lieu et en place aussi une demi-heure, si possible, je dis bien si possible, à prier pour les membres de notre Église, à prier pour les entreprises missionnaires qui en ont besoin. Sommes-nous, mes bien-aimés, prêts à renoncer au christianisme facile et, comme le disait un missionnaire, de renoncer au christianisme de fauteuil. Il avait trouvé le bon mot qu'il fallait. Dieu aimerait voir nos bouches, nos mains, nos yeux résister à l'envie, pas être comme des enfants. C'est vrai que dans notre société d'abondance, c'est vrai, de consommation, de superflu, malgré ces temps de crise et de récession financière, nous avons encore renoncé à quelque chose qui nous tente. Nos langues, indomptables, aiguisées, libérées de la critique destructive et de la médisance. Vous l'avez dans Jacques, au chapitre 3 et au verset 5. Et ça, je vais quand même vous le lire, c'est court. Jacques, au chapitre 3, au verset 5. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? Malheureusement, c'est d'actualité dans un autre sens, d'un petit feu, comme la langue. Méfions-nous des paroles inutiles et des mauvaises conversations. Enfin, ce sacrifice vivant qui implique une consécration totale, donc sans aucune réserve, je dis bien sans aucune réserve. Notre Seigneur ne peut se satisfaire de moins. C'est ainsi seulement que nous lui offrirons donc un culte raisonnable, ayant pour corollaire d'être constamment renouvelé. Dans notre intelligence, nous avons besoin d'être renouvelés jour après jour, dans notre intelligence spirituelle, et capable de discerner la volonté de Dieu et d'être soumis à la volonté divine. Le psaume 143 nous dit « Enseigne-moi, ô Dieu, à faire ta volonté. Enseigne-moi, ô Dieu, à faire ta volonté. » On est d'accord ? Amen. Conclusion, parce qu'il faut bien une conclusion. Que notre consécration, c'est-à-dire notre sanctification, nous dit parole vivante, nous caractérise ainsi aujourd'hui. Et notre Église sera pleine de vie demain. Amen. C'est-à-dire une Église bouillonnante. Bouillonnante d'activités diverses et spirituelles. Comme je dis moi dans mes prières, que notre Église soit une maternité spirituelle qui enfante des âmes nouvelles. Offrons-nous donc sur l'autel dans une consécration totale, comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Et dès lors, que cela est librement consenti. Je dis bien librement consenti. Dieu ne nous force pas. Dieu, dans ses compassions infinies, nous dispensera force et joie pour le vivre quotidiennement. Car le Seigneur est plein de compassion, de bonté et de miséricorde. Je terminerai par deux versets. Le premier, Romains, chapitre 6, verset 19. Je l'ai pris les deux sur parole vivante. Je vous le lis. « Eh bien, maintenant, servez Dieu. » Il est dit « maintenant ». Il n'est pas dit « demain » ou « dans un autre temps ».« Servez Dieu avec le même dévouement. Mettez tout votre être à la disposition de ce qui est juste. C'est là le chemin de la sanctification. Vous réjouirez Dieu en le suivant. » Voulez-vous le suivre ? Amen. Et le dernier, c'est Colossiens, chapitre 4, verset 17. Colossiens chapitre 4, verset 17. Prenons donc garde au service. Garde au service. Le Seigneur nous prévient. Et veillons sur le ministère que nous avons reçu. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous avons reçu un ministère dans l'œuvre du Seigneur pour l'accomplir avec fidélité et de tout cœur. Donc, en veillant sur nous-mêmes et sur notre enseignement avec persévérance. Soyez des responsables, soyez des gagneurs d'âme. Amen. Seigneur, oui, merci pour ta parole, pour tes enseignements. Nous voulons être des gagneurs d'âme, apporter autour de nous cette bonne odeur, cette bonne parole de Jésus-Christ, Seigneur. Nous voulons donc te rendre ce culte raisonnable, Seigneur, et te servir avec zèle, avec droiture, avec amour et avec sérieux. Seigneur, je te demande de bénir mes frères et sœurs, afin que cette Église puisse croître et s'accroître dans tous les domaines dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Merci encore pour cette liberté que nous avons de pouvoir parler de toi, de pouvoir, Seigneur, nous enrichir entre frères et sœurs dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen.